Salut, c'est Odile.
Salut, c'est Olivier.
Salut, c'est Nathalie.
À la bonne heure, le mag Région Sud-Est.
Des musiques, des chroniques, des invités.
De midi 10 à 13h.
À la bonne heure.
Quoi ?
À la bonne heure.
Sur Fréquence Mistral, bien sûr. Donc, de retour dans notre mag à la bonne heure, avec notre invité, nos invités. On va parler donc de cinéma, le cinéma organisé par les rencontres cinématographiques. Et pour cela, donc, il y a Bamshad Pourvali, docteur en cinéma et responsable du site Iran Cinéma Panorama. Et il est accompagné donc de Caroline Portalbord, directrice des rencontres cinématographiques. Bienvenue à tous les deux dans notre magazine.
Merci.
Alors on va faire une présentation du film et puis pourquoi vous êtes là pour nous en parler aujourd'hui ?
Oui. Mardi 28 janvier, donc nous avons le plaisir d'accueillir Bamshad Pourvali pour présenter le film Une langue universelle de Mathieu Rankin. Et la projection sera suivie d'un temps d'échange avec le public, comme nous aimons à le proposer, au moins une fois par mois si possible. Et nous sommes toujours ravis de pouvoir parler du cinéma iranien et de l'actualité de ce pays si complexe. Je laisse Bamshad en dire plus.
C'est ça, d'autant plus que Une langue universelle, en fait, est un film canadien, mais entièrement en persan, en tout cas majoritairement en persan. Puisque si Mathieu Rankin n'a pas de lien avec l'Iran, si ce n'est le fait que, comme il le répète, il a grandi, comme beaucoup de spectateurs à travers le monde, enfin de spectateurs ou d'artistes qui ont aujourd'hui 40-50 ans, avec les films d'Abbas Kiarostami notamment, qui avaient été découverts dans les années 80 et 90. Il a surtout beaucoup d'amis iraniens au Canada, qui sont donc les coproducteurs et co-scénaristes de son film, et qui explique la nature très particulière de ce film qui avait été choisi pour représenter le Canada à la cérémonie des Oscars. Donc le film ne figure pas dans la dernière liste en fait, des films retenus, mais il a été dans la short list encore récemment des 15 films retenus, ce qui est quand même quelque chose d'assez important. Et ce n'est pas la première fois qu'un film qui n'est pas tourné en Iran, mais qui est en persan, puisse représenter ou a été choisi, parce que comme vous le savez, c'est quand même des commissions en fait qui choisissent. Par exemple, en France, une commission qui s'est réunie pour choisir Emilia Pérez, mais donc ça donne lieu parfois à des débats très importants en fait. Mais il faut savoir qu'en 2016, la Grande-Bretagne avait proposé un film qui s'appelle Under the Shadow, qui est un film qui avait été tourné en Jordanie, mais dont l'action se passait durant la guerre Iran-Irak, qui est un film fantastique. Une relation mère-fille pendant la guerre Iran-Irak. Et c'était un film entièrement en persan. Voilà. Et choisi par la Grande-Bretagne pour représenter le pays pour la cérémonie des Oscars. Cette fois-ci, ça n'avait pas passé même la shortlist. Mais je crois que c'était la première fois, en fait, qu'on assistait à ça. Et donc, cette année, le Canada a choisi Une langue universelle. Mais il faut savoir que parmi les films qui ont été retenus et qui font partie des favoris, en fait, pour recevoir l'Oscar du meilleur film étranger, le représentant de l'Allemagne, c'est Les graines du figuier sauvage de Mohamed Rasoulof, puisque c'est une coproduction allemande. Voilà. Donc, il y a quand même un film en langue persane, là, pour le coup, tourné en Iran, Les graines du figuier sauvage, qui va concourir, mais qui n'est pas le film présenté par l'Iran.
Alors, si on peut rappeler un peu l'histoire de ce film, le synopsis.
Oui, alors en fait, c'est l'histoire d'un personnage qui s'appelle Matthew, qui est joué par le metteur en scène Mathieu Rankin, qui a quitté Winnipeg, où il est né, où est vraiment né donc aussi le réalisateur, même s'il interprète un personnage, et pour aller travailler à Montréal. Et donc, il retourne dans sa ville natale. Mais il se trouve que la langue que tout le monde parle dans cette ville natale, depuis apparemment toujours, mais c'est la proposition fantaisiste, mais qui fonctionne très bien du film, c'est le persan. Et en fait, beaucoup d'éléments et d'épisodes que l'on voit dans le film, en fait, s'inspirent des films iraniens de l'enfance, qui sont les films, justement, d'Abbas Kiarostami, les premiers films de Jafar Panahi, etc. Et Mathieu Rankin l'explique parce que beaucoup d'anecdotes que lui racontait sa grand-mère, d'épisodes de sa propre enfance, Par exemple, le fait d'avoir découvert un billet de banque, comme on le voit dans le film, gelé dans une flaque d'eau, en fait, lui rappelait à lui, Mathieu Rankin, des épisodes qu'il avait vus dans des films iraniens. Voilà, et donc, dans son souvenir, il avait mélangé des paroles de sa grand-mère avec des films iraniens qu'il avait pu voir. Voilà, et donc, le film raconte ce retour, disons, dans la ville de l'enfance par un personnage qui est parti. Et en même temps, c'est un film très cinéphile. Alors, moi, je suis en train de vous parler beaucoup peut-être des références iraniennes, mais il faut savoir que beaucoup de spectateurs qui voient le film, parfois, pensent à du Wes Anderson, pensent à du Aki Kaurismäki, pensent aux frères Cohen, tout ça aussi lié au paysage, un peu comme ça, dans la glace, canadien, etc. Fargo, notamment. Donc voilà, donc c'est un vrai film de cinéphile. On n'est pas obligé d'avoir toutes les références pour apprécier le film. Mais en même temps, enfin voilà, c'est une fantaisie très, très surprenante. Et un film donc aussi très sensible, qui peut aussi rappeler une sorte de recherche du temps perdu, à la fois d'un point de vue littéraire, mais aussi d'un point de vue cinématographique, avec plein de scènes et de références. Et qui, moi, me rappelle aussi, ça on aura certainement l'occasion d'en parler mardi prochain, beaucoup des films canadiens vus peut-être dernièrement. Dernièrement, il y a un certain nombre de films canadiens qui sont sortis, simples comme Sylvain, par exemple, ou un film que moi j'aime beaucoup qui s'appelle Vampire humaniste, cherche suicidaire consentant. Je ne sais pas si ce titre vous dit quelque chose, mais c'est un film absolument magnifique. C'est un teen movie, un film pour adolescents, mais de vampires, comme beaucoup de films pour adolescents, mais avec un humour très canadien qu'on retrouve dans Simple comme Sylvain, qui lui était un film qui s'emparait de Monia Chokri, un film qui s'emparait, disons, de la comédie romantique, mais pour en faire un film canadien avec une forme de tendresse que moi je trouve typiquement canadien, la même chose, ou d'absurdité aussi pour Vampire humaniste, cherche suicidaire consentant, et pour moi une langue universelle s'inscrit là-dedans, mais le genre dont il s'emparerait en quelque sorte, ce serait donc ces films sur l'enfance du cinéma iranien, mais pour en faire quelque chose de canadien, qu'on peut inscrire, même qu'on peut préciser québécois. Voilà, parce que les films, les exemples que j'ai donnés sont québécois. Et là, on rajouterait winnipegois, parce que même si Winnipeg est une petite ville, c'est quand même une ville dont on entend pas mal parler, parce que c'est une ville avec une atmosphère particulière, plutôt déprimante. Voilà. Et il y a un cinéaste à Winnipeg, qui est quand même un peu connu dans les festivals à l'international, qui s'appelle Guy Madin, qui fait des films surréalistes et avec qui a travaillé Mathieu Rankin. Voilà, donc c'est pas qu'un film pour festival qui va prendre le cinéma iranien, c'est aussi un film très ancré à Winnipeg et puis dans ce cinéma canadien et québécois plus particulièrement. Voilà, ça a toutes ces influences qu'on retrouve.
Est-ce qu'on écoute la bande-annonce du film ?
Oui.
Une langue universelle.
اینجا یکی از اولین سازه‌های مسکونی در بخش تاریخی بژ وینیپگ.
آدم های معروفی اینجا زندگی میکردن؟
نه
نازگل بودو بیا
نگین چرا داری میدویم؟
سر یه تو یخ پیدا کردن
آخه اصلا چطوری از تو یخ درش بیاری؟
الان را میگی که تا دمیه جورنه ایسی چیسا؟
بیه پر وینیپگ سوپلا
On va discuter de ta nouvelle vie.
J'aimerais des somnifères, s'il vous plaît.
La vie vaut la peine d'être vécue, monsieur.
Bingo!
Enfin, Barikala!
Bon, elle est même comme elle en divanasse.
Bonjour, Chaudi! Tout ça, tu connais, Béchi?
Diplomate.
Bout comment va ça?
برو آروم میدارش کن بهش بگین که برگشتیم خونه
ما عجله داریم شما نمیتونین کمکمون کنین
مونیپگ étrange destination pour le tourisme
chaises?
J'en ai.
T'as-tu des étagères?
J'en ai.
T'as-tu des divans?
J'en ai.
محسودم خیلی خوشبختم
من به اون آقا های اعتماد ندارم
بچه ها
باشد تا هر روز زندگی دو روزی پر از شادی و خوشی باشد
همون جوری که رودخونه حسین و باین میپیونده به رود قرمز ما هم همه به هم وصلیم آقا
Voilà, on retrouve donc Bamshad Pourvali pour parler donc de ce film programmé au Centre culturel par les rencontres cinématographiques Une langue universelle. C'était la bande-annonce.
Exactement, et comme on l'a entendu, c'est une bande-annonce essentiellement en persan, avec aussi de la musique persane que l'on entend, même si on entend aussi un peu de français, puisqu'une partie se passe à Montréal. Il faut savoir que si le titre international du film est... Une langue universelle, il y a eu un titre québécois qui est une visite guidée. Et le titre persan qu'on voit inscrit à l'écran, c'est « Avaz e Bora Lamoun ».« Avaz e Bora Lamoun », ce n'est pas tout à fait la traduction de « une langue universelle », puisque littéralement « Avaz e Bora Lamoun », ça veut dire « le chant du dindon ». Voilà. Donc, à moins d'estimer que le chant du dindon est une langue universelle, mais c'est pas tout à fait ce qu'il y a dans le film, même si. Mais ça vous donne aussi la tonalité de l'humour qu'il y a dans le film. D'accord. Je pense qu'on entend des gloussements de dindon aussi à un moment donné dans la bande-annonce.
Je rebondis un peu sur la bande-annonce, justement, parce qu'on n'entend pas uniquement du persan, on entend aussi du français. Donc est-ce qu'il y a un peu un mélange de plusieurs langues dans le film ?
Alors. Il y a du français, en fait, il y a les deux langues du Canada, c'est-à-dire qu'il y a du français puisqu'on va être à Montréal et on va beaucoup insister sur l'identité aussi de Montréal. Et il faut savoir que la véritable langue qui est parlée à Winnipeg, la langue majoritaire, en fait, c'est l'anglais. Et l'anglais, on va l'entendre qu'au générique de fin, par une chanson interprétée par un groupe de Winnipeg, une chanson de 69, une très belle chanson, qui s'appelle « Those Eyes ». Voilà, et une chanson dont les paroles vont nous être récitées au milieu du film en persan et sur un ton de poème vraiment dit et déclamé d'une manière très orientale, si bien qu'on est persuadé, en tout cas moi en voyant le film, que c'était un très très beau poème persan. Et en fait, on s'aperçoit que c'est une musique pop voilà, à la fin. Voilà, donc c'est un film qui, avec beaucoup d'humour, parle aussi de tous ces problèmes, effectivement, linguistiques qu'il y a au Canada et auxquels était confronté, est confronté un réalisateur comme Mathieu Rankin, puisqu'il est aussi emprunt d'une culture française et il est francophone, enfin, c'est, encore une fois, c'est lui-même qui joue dans le film. Mais en même temps, il vient de cette ville où, majoritairement, les gens parlent anglais, et il se trouve que la toute première séquence du film est tournée dans une école de français à Winnipeg, mais qui devient une école de persan à Winnipeg. Voilà, voilà. Bon, bref. Donc il y a tout ce décalage, tout ce jeu très réussi dans le film.
Et donc, y a une partie, c'est un poème qui est récité ou qui est chanté, mais ça, c'est pas pour autant un film musical, non c'est...
Alors, il y a pas mal de... Il y a à un moment donné dans le film un chant en persan, voilà. Donc il y a une dimension aussi musicale, mais toute cette dimension musicale, en fait, avant le générique de fin, est plutôt orientale, voilà, est plutôt marquée par la culture iranienne.
Et est-ce qu'on peut revenir donc sur la différence entre le farsi et le persan ?
Oui, ça c'est une remarque que je trouve intéressante de préciser, c'est-à-dire qu'en fait ça veut dire strictement la même chose, mais depuis une vingtaine d'années, certains milieux trouvent plus chic de dire farsi plutôt que persan, ce que je trouve horrible en fait en français, parce que farsi c'est pas très joli en fait, voilà, et qu'il y a le mot persan, il faut savoir qu'il n'y a pas la lettre P en arabe. Le persan n'étant pas de l'arabe, en fait, certains très grands littéraires ne diraient pas farsi, diraient parsi, qui veut dire tout simplement persan. Mais très souvent, le P est remplacé par un F. Il peut être remplacé par un B, enfin bon, bref. Mais il est aussi, on ne dira pas Paris, on dira Alors, je ne sais même plus ce qu'on dit exactement, mais il n'y a pas de paix, en tout cas on ne dit pas Palestine, on dit Palestine par exemple. Mmh. Voilà. Mais donc Farsi, c'est la manière dont les Arabes et ensuite les Iraniens ont fini par dire, mais c'est la langue qui est parlée dans la province de Perse, qui est une des provinces de l'Iran. Et moi, je trouve qu'il n'y a aucune raison pour qu'en français, on dise Farsi. Je veux dire, c'est comme si on disait English en français, au lieu de dire English, parce que c'est déjà le prononcer mal, en fait. Enfin, voilà, et faire croire qu'on sait exactement comment est-ce qu'on le prononce, alors qu'on a déjà un mot pour le dire qui est persan. Voilà. Mais ça, c'est devenu un peu chic et je trouve très, très contestable. Voilà. Donc je pense que c'est plus juste de dire persan, même si c'est un mot un peu littéraire. Voilà. Mais c'est le mot exact, en fait. Voilà. Donc ça permet de le préciser.
Quand vous voulez revenir sur la programmation de ce film, donc Une langue universelle, aux rencontres cinématographiques, est-ce que le fait que ce soit un film avec la langue persane, c'est quelque chose que vous avez choisi
Pardon. Dans le choix du film, on fait totalement confiance à Babshad qui régulièrement nous informe de l'actualité du cinéma iranien. Même si on suit aussi tout cela, mais pour faire un tri, un choix parmi toutes les propositions, c'est vrai que celui-là a retenu notre attention par son originalité, effectivement. Le mélange Canada-Iran et voilà, le fait déjà qu'on entende la langue persane. Et on cherche à avoir un intervenant par mois. Et là, ça, c'était l'occasion, puisque le film est sorti en France le 18 décembre, ce qui était assez récent. Puis, comme on a eu aussi la petite coupure des vacances, voilà, pour le mois de janvier, c'était tout à fait opportun d'accueillir Babshad, qui, d'autant plus, intervient dans différents établissements scolaires, en lien avec les programmations, soit collège et cinéma, soit programme du bac, notamment pour les élèves de l'option cinéma du lycée d'Avinel. Donc c'était l'occasion parfaite pour associer les interventions d'éducation à l'image scolaire et tout public avec la séance d'une langue universelle demain soir.
Oui, parce que vous n'êtes pas du tout dans la région, a priori.
Non.
Donc vous êtes venu exprès.
Je viens assez régulièrement, ouais. Mais je suis venu effectivement, pour à la fois accompagner des ateliers critiques sur... Persépolis de Marjane Satrapi et Vincent Paronneau qui est au programme de Collège au cinéma et puis par rapport au programme du baccalauréat, le film High School de Frédéric Wiseman sur lequel j'ai travaillé, j'ai fait un dossier pour Canopé sur le film, donc j'accompagne aussi ce film-là et donc c'était l'occasion d'accompagner aussi ce volet un peu scolaire aussi dans les établissements autour des propositions autour du cinéma.
Alors, est-ce qu'on peut en savoir plus sur le cinéma iranien, surtout actuellement avec tout ce qui s'y passe?
Oui, parce que effectivement, on est dans une période compliquée par rapport au cinéma iranien, dans la mesure où suite aux événements depuis septembre 2022, il y a donc une grande partie des réalisateurs, des acteurs et aussi des actrices en particulier qui ont pris position en faveur du mouvement de contestation qui continue en fait en Iran. En fait, assez régulièrement, il se passe des choses nouvelles en Iran qui montrent que des personnes... sont engagés en fait, que le mouvement Femmes, Vie, Liberté n'est pas retombé. Mais il faut savoir que les actrices, par exemple, professionnelles qui ont pris position, qui ont publié des images d'elles en faveur du mouvement, c'est-à-dire des images sans voile sur les réseaux sociaux, sont interdites de jouer officiellement, voilà. Que des réalisateurs ont été obligés de quitter l'Iran, donc comme Mohammad Rasoulov, comme on le sait, après la sélection de son film à Cannes, il a quitté clandestinement l'Iran, il ne peut plus retourner. Et en fait, aujourd'hui, c'est un peu par rapport à la production à l'intérieur de l'Iran, une vraie question qui se pose, parce que d'un côté, les festivals souhaitent programmer des films qui... qui n'obéissent pas aux règles de la censure, mais en même temps, ces films sont de plus en plus difficiles à tourner, voire même peuvent mettre en danger les réalisateurs, ouais. qui peuvent à un moment donné être immédiatement victimes d'une peine de prison, ce qui était le cas pour Asoulov, d'où son départ, de 8 ans de prison, mm-hmm. tout de même, qui était prévu. Donc il y a une vraie interrogation sur l'avenir, sur les films qui seront montrés dans les prochains festivals, sachant que pour le moment, ce qui est surtout montré, c'est des films qui sont tournés par la diaspora iranienne, qui n'est pas soumise à ce problème-là de censure. Donc parmi les films iraniens qui sont sortis dernièrement, il y a donc eu Les Graines du Figuier Sauvage, mais ça c'était réalisé à l'intérieur de l'Iran, mais à l'extérieur de l'Iran, un film qui s'appelle Tatami, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, qui est un film israélien de Guy Nativ et Zahramir Ebrahimi. Donc c'est une première collaboration entre deux réalisateurs, l'un israélien, l'autre iranienne, en fait, une réalisatrice iranienne, mais qui ne peut plus retourner dans le pays, même avant, mais qui est totalement marqué par ce qui se passe aujourd'hui en Iran. Voilà. Au mois de mars doit sortir aussi toujours un film israélien. Voilà, il y avait ces projets-là, en fait, qui arrivent à maturation maintenant, qui est une adaptation de Lire Lolita à Téhéran, le grand best-seller d'Azar Nafisi, qui était un livre qui était sorti début des années 2000, donc qui vient d'être adapté avec justement Zahramir Ebrahimi à nouveau, Golshifteh Farahani, Mina Kavani, qui sont des actrices qui vivent toutes en France, en fait, qui ne peuvent pas retourner en Iran. Voilà, donc il y a ces productions-là, il y a des documentaires aussi qui ont été montrés, qui vont être faits de plus en plus par rapport aux événements récents en Iran. Donc c'est un cinéma de plus en plus politique, mais qui peut difficilement se tourner en Iran sans mettre en danger les réalisateurs et les acteurs et les participants. Ce qu'on peut trouver aussi peut-être parfois injuste, parce qu'il y a des films malgré tout très bien qui peuvent être réalisés, qui comme auparavant peuvent critiquer le régime, mais jusqu'à un certain point ne pas totalement enfreindre les lignes rouges. Mais c'est sûr que la politique des festivals consiste davantage à privilégier des films qui seraient plus ouvertement opposés, au code de la censure. Mais encore une fois, c'est une question qui peut se poser de savoir si tous ces films qui enfreignent ces codes de la censure sont forcément les plus pertinents, s'il y a des films qui peuvent être peut-être plus prudents par certains aspects, mais qui nous apportent aussi des informations nécessaires, peut-être moins sensationnalistes, mais néanmoins nécessaires. Enfin voilà. Pour moi, ces questions restent ouvertes. J'arrive pas à les moi-même à me positionner d'une manière définitive, en fait, par rapport à ça, parce que je pense à un film que je trouve très bien d'Abbas Amini qui s'appelle Frontières sans fin, Endless. Frontières sans fin, qui est un film, en fait, qui ne va pas entièrement contre, par exemple, le fait de montrer que des actrices qui ne portent pas le voile, mais qui, en même temps, est un film qui nous parle de choses importantes par rapport à l'Iran, notamment la situation, justement, parce que c'est un film qui se passe à la frontière avec l'Afghanistan, la situation de réfugiés afghans dans les camps. Et c'est un film que moi, je trouve très touchant, parce que c'est un film qui a été dédié à Mohammad Rasoulov à un moment où il était encore en prison. Voilà. Et donc, pour moi, c'est un film qui mériterait d'être montré, même si c'est pas forcément un film c'est un film qui date, disons, qui a été fait il y a plus d'un an, mais c'est un film qui, pour moi, et peut-être plutôt à la manière, effectivement, des films que l'on tournait avant, parce que si c'est dédié à Rasoulov au moment où il était en prison, c'est aussi avant le mouvement Femme, Vie, Liberté, mais qui en même temps nous dit quelque chose qui reste valable sur la situation en Iran. Donc voilà, donc en fait, pour moi, c'est une situation complexe, mais qui fait que la particularité du cinéma iranien amène à quand même voir assez régulièrement, quasiment tous les 2-3 mois, un film iranien sur les écrans français, tourné à l'extérieur, sous forme documentaire, ou bien tourné clandestinement à l'intérieur de l'Iran. Donc voilà.
Donc, est-ce que vous pouvez rappeler ce que veut dire la diaspora iranienne ?
Oui, par diaspora iranienne, j'entends en fait toute cette communauté iranienne. On estime qu'il y a à peu près entre 5 et 10 millions d'Iraniens, il n'y a pas de chiffres officiels, qui vivent en dehors de l'Iran et qui vivent un peu partout en fait. Voilà, il n'y a pas un endroit en particulier. Et il se trouve qu'il y avait une diaspora avant la révolution de 79, mais qui a beaucoup augmenté après, à différents moments, parfois en 79, parfois en 88-89, à la fin de la guerre Iran-Irak, parfois plus tardivement, et qui fait qu'il y a aussi, donc, depuis, je dirais, une vingtaine d'années, des représentants de cette diaspora qui, très souvent, en fait, lors de leur premier film ou deuxième ou troisième film, font un film qui parle de l'Iran, en fait, qui parle de leur propre histoire. Voilà, donc on parlait de Persepolis, mais il y a aussi Nous trois ou rien, qui est un film qui avait été réalisé de Kairon, qui était un film qui avait été réalisé en 2015. Donc voilà, et il y en a aux États-Unis, enfin voilà, il y en a un peu partout. Voilà.
Donc ce sont des films qui ne sont pas censurés.
Qui ne sont pas liés directement à la République islamique.
Mais qui ne peuvent peut-être pas être projetés en Iran.
Alors, qui ne peuvent pas être projetés en Iran, mais il faut savoir qu'en Iran, ça on le voit dans beaucoup de films, en fait, tout circule sous le manteau depuis déjà très très longtemps. Mmh. Et de toute façon, tout circule par Internet. Mmh. Et que d'abord, il n'y a pas de droit d'auteur en Iran. Donc en fait, même les distributeurs internationaux ne peuvent pas vraiment interdire. Et d'ailleurs, non seulement ils ne peuvent pas, mais ils ne cherchent pas à interdire. Alors, c'est des copies qui vont être mises sur Internet, mais sans sous-titres dans une autre langue, qui seront en persan. Voilà. Ou alors, il existe une copie de Persepolis, qui est un film en français, sous-titré en persan. Donc, qui a quand même été fait, certainement aussi voulu par Marjane Satrapi ou d'autres, en tout cas, qui ne se sont jamais opposés à ça, pour que les Iraniens puissent voir. Parce qu'ils sont curieux, et donc ils voient tout ça. Et dans beaucoup de films ensuite faits à l'intérieur de l'Iran, on voit que ces films-là ont aussi une influence sur la production à l'intérieur de l'Iran. C'est-à-dire que ces films-là sont vraiment vus en Iran. Ça, c'est une des preuves du fait qu'ils soient vus. Parce que, par exemple, moi, je pense à un film que j'aime beaucoup, qui est un film qui s'appelait Woman Without Man de Shirin Neshat, qui est une grande plasticienne iranienne qui, depuis très longtemps, vit à l'étranger, qui est un film qui était une adaptation cinématographique d'un livre écrit en Iran, mais tout de suite interdit en Iran, qui portait le même titre, donc « Femme sans homme », et qui racontait en fait 5 portraits de femmes en 1953, au moment du coup d'État en fait, qui a eu en 1953 en Iran pour remettre le Shah sur le trône. Et en fait, donc c'est un film qui est anti-monarchique, et un livre qui était aussi anti-monarchique, mais interdit malgré tout en Iran, parce que ça faisait un parallèle finalement avec ce qui s'est passé ensuite, pour dire que c'est aussi une même dictature qui a continué. Et il faut savoir que moi, il y a une esthétique très particulière dans ce film pour représenter les années 50, mais avec des couleurs désaturées, d'un type très particulier. Et quelques années plus tard, peut-être 2-3 ans plus tard, il y a une série qui est devenue très très populaire en Iran, qui s'appelle Shahrzad, qui est l'histoire d'un personnage qui vit au moment de ce coup d'État. Et c'est une série en plusieurs saisons. Et moi, je trouve que c'est la même esthétique. C'est-à-dire que c'est le développement, pour moi, de ce long métrage qui officiellement n'a jamais été montré en Iran, parce que ça montre aussi des femmes nues, etc. Enfin, toute une hypocrisie, etc. Alors, Shahrzad ne va pas montrer ça, mais l'esthétique sera la même pour parler de la même période. Voilà. Et donc, pour moi, c'est pour ça que ce cinéma de la diaspora iranienne, ce que je trouve intéressant, c'est que ce n'est pas un cinéma qui est détaché, en fait, du cinéma qui se fait à l'intérieur de l'Iran. C'est un cinéma qui s'est beaucoup nourri de la reconnaissance du cinéma iranien, de Kiarostami et de d'autres, voilà. Et c'est un cinéma, en fait, qui aborde des questions qui ne peuvent pas être abordées dans le cinéma iranien, qui sont des questions historiques. Parce que c'est beaucoup plus rare, en fait. Ou alors, c'est des films de propagande. Les films qui parlent d'histoire faite à l'intérieur de l'Iran, c'est quand même l'histoire officielle. L'histoire officielle de la Révolution, ce n'est pas celle que vous avez dans Persepolis. L'histoire officielle même du coup d'État de 1953, ce n'est pas ce que vous avez dans Women Without Men. Voilà. Donc, l'honnêteté de ce cinéma de la diaspora, c'est de ne pas reproduire, de ne pas prétendre savoir ce qui se passe dans la société iranienne, mais c'est de compléter ce cinéma en montrant une mise en perspective, en fait, de ce qui se passe aujourd'hui avec des choses qui se sont passées déjà par le passé. Voilà. Et du coup, en ce sens-là, on a... C'est pour ça que moi, j'appelle ça quand même le cinéma iranien. C'est-à-dire qu'on a un cinéma iranien complet, en fait, qui arrive à se faire à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de l'Iran, parce que finalement, il y a presque un partage des tâches et qui rejoint la même chose, puisque on a beaucoup estimé que ce qui était intéressant dans le cinéma iranien, c'était qu'il nous parlait de la société civile iranienne, c'est-à-dire nous parlait des gens ordinaires. C'est-à-dire que grâce au cinéma iranien, en fait, on peut savoir comment les gens vivent. Voilà. Et ça, on ne peut pas le savoir en regardant juste les actualités, puisque les actualités nous disent ce que les dirigeants nous, voilà, racontent. Mais par exemple, si on suivait que les actualités, on ne comprendrait jamais tous ces mouvements de révolte qui éclatent tous les 3-4 ans en Iran. Mais pour ceux qui suivent les films, en fait, parfois, 6 mois avant, 1 mois avant, il y a eu un film qui nous annonçait exactement ce qui allait se passer. Les Chats persans, par exemple, qui est un film de 2009, qui a été présenté à Cannes en mai donc 2009, annonçait exactement ce qui allait se passer un mois plus tard, qui est le début de la révolte qu'on a appelée le Mouvement Vert. Au Festival de Cannes de mai 2022, il y a ce très beau film qui s'appelle Leïla et ses frères, qui se termine avec des petites filles qui viennent dans une maison pour un anniversaire, et c'est là où le père, le grand-père d'une de ces petites filles meurt. Et pour moi, ça annonce exactement la révolte qui allait éclater en septembre, que le film ne pouvait pas totalement prévoir. Le film, en fait, prévoyait que les choses changeraient un jour en Iran lorsque ces petites filles deviendraient adultes. En fait, ça a changé un peu plus tôt. Et d'ailleurs, dans les manifestations, il y a eu beaucoup d'enfants, parfois. Et ça s'est beaucoup passé dans les écoles en septembre 2022. Donc voilà. Donc en fait, on s'aperçoit que par la fiction, en fait, on a des choses... Et moi, ce que j'ai tendance à dire souvent, c'est que si on regarde ces fictions et ces documentaires en plus des actualités, on n'a pas d'image manquante par rapport à l'Iran. On a toutes les images, mais il s'agit de refaire le pulse, ce que ne font pas forcément toutes les personnes. Voilà. Et c'est ce qui fait que beaucoup de spécialistes dits de l'Iran, en fait, les politologues, en fait, ne prévoient jamais rien, parce qu'ils ne voient pas suffisamment de films. Voilà.
On rappelle, on va devoir se quitter, on rappelle donc le film Une langue universelle de
Matthew Rankin. Ce sera donc mardi 28 janvier au Centre culturel René Char à 20h30 et ce sera suivi d'un temps d'échange avec Bamshad Pourvali ici présent. Et nous invitons à venir découvrir ce film insolite et qui a l'air vraiment extra.
Voilà, merci à tous les deux, donc Caroline Portalbord et Bamshad Pourvali. Et Tiffany, qui a bien relancé le débat. Merci, Tiffany. Et donc, on se voit certainement demain soir. C'est déjà demain, mardi 28. Bonne journée. Au revoir.
Au revoir.
Silence. Moteur. Ça tourne. Action.
Ne me quitte pas, mon amour.
Les rencontres cinématographiques.
petit cinéma.
Salut, c'est Odile.
Salut, c'est Olivier.
Salut, c'est Nathalie.
À la bonne heure, le mag Région Sud-Est.
Des musiques, des chroniques, des invités.
De midi 10 à 13h.
À la bonne heure.
Quoi ?
À la bonne heure.
Sur Fréquence Mistral, bien sûr.